Bienvenue dans le podcast Sur la Terre des Hommes. Pour profiter au maximum de l'expérience du podcast, prenez quelques minutes pour aimer notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur Threads au SLTDH Pod et sur Instagram au Sur la Terre des Hommes Podcast. Si vous êtes abonné au podcast, prenez une minute pour nous laisser un avis. Vous allez ainsi faire grimper le podcast dans le moteur de recherche. Finalement, si vous voulez encourager Sur la Terre des Hommes et obtenir des épisodes exclusifs, vous pouvez contribuer monétairement sur la plateforme patreon.com, patreon.com. Recherchez Sur la Terre des Hommes et pour seulement 2$ par mois, vous y aurez droit. Bienvenue sur la Terre des Hommes. Cet épisode de Sur la Terre des Hommes est présenté par Construction Rivard. La rénovation et la construction, ça passe par la science du bâtiment et de vraies maisons éco-énergétiques. Un des seuls en Abitibi-Témiscamingue qui construit des maisons Nouveau Climat est prêt net zéro. De la fondation à la finition d'escalier, ils font tout. Construction avec un S, rivard.com ou contactez-les au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 270 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas-tu?
Hey, salut tout le monde. Hey, pas vrai, ça va bien aujourd'hui. J'ai eu une bonne nouvelle, je suis content.
Ah oui?
Mon directeur m'a annoncé officiellement que l'année prochaine, j'allais pouvoir enseigner le cours d'histoire du 20e siècle en option 4 périodes à mes secondaires 5.
Oh, wow!
Je vais pouvoir enfin me lâcher lousse dans un truc. Ça fait quasiment 2 ans que je travaille là-dessus. J'essaie de convaincre les gens que ce serait une bonne option à essayer d'implanter tout ça. Puis j'ai eu la confirmation aujourd'hui qu'on starte ça l'année prochaine. Fait que Je suis dans les lectures de tout ce qui s'est passé depuis l'Expo de Paris jusqu'à la chute du mur de Berlin présentement pour me préparer pour l'année prochaine. Tu sais, c'est quand même assez loin, mais...
Comme cours, est-ce que c'est toi qui l'as monté, qui le monte au complet? C'est juste un cours qu'on trouve à l'école du Berlin?
Il y a déjà le programme, il y a déjà tout. Il y a même un groupe Facebook des profs qui l'enseignent au Québec. Il y a plein de monde qui m'a envoyé du stock, qui sont peut-être justement des auditeurs. Je les remercie. Ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. En gros, là, chapitre 1, Première Guerre mondiale. Chapitre 2, Deuxième Guerre mondiale. Chapitre 3, Guerre froide. Trois chapitres, trois étapes.
C'est malade.
Ça fait l'année. Je vais avoir du fun, je pense.
Vraiment. Puis c'est un cours à option ou...
Oui, option à 4 périodes pour secondaire 5. Ça veut dire que ceux qui aiment vraiment l'histoire vont aller le chercher. Fait que c'est un cours avec des jeunes qui vont être intéressés, qui risquent d'être aussi passionnés par l'histoire. Fait que ça va être pratiquement infini ce que je vais pouvoir faire avec un cours comme ça. Ça va être,
Sérieusement, Joe, là, tu me l'apprends, mais je veux en parler à ma direction. Ça serait malade. Un cours au secondaire 5, option 20e siècle. Là.
Oh, que ça serait c'est sûr et certain que ça va aller chercher les gars, surtout habituellement, les gars sont un peu laissés de côté, je dirais, à l'école. C'est dur d'aller les chercher, mais je sais qu'il y a beaucoup de garçons qui attendent. On veut parler de Deuxième Guerre mondiale, c'est dans aucun programme. Puis là, ben bang, tu vas en avoir pendant 3 mois de la guerre mondiale.
Puis la grosse déception en secondaire 4, c'est que le mini-chapitre, parce que c'est la plus petite partie du programme d'histoire de secondaire 4, je pense que c'est quoi, 4 cours, puis c'est fini, là.
Même pas.
Puis on parle Canada, plus du Canada.
On parle sur la participation du Canada, tandis que là, c'est vraiment. Il y a même la révolution russe dans le programme. Là, j'ai regardé ça. Là, c'est hallucinant. Je t'enverrai le programme. Pour vrai, ça vaut la peine. J'ai déjà le cahier d'activité.
Oh my God.
Ça va être très, très cool. Fait que je vais faire du monde contemporain plus ça. Au lieu d'avoir de l'histoire secondaire.
Ça va être ça, ta tâche.
Je me débarrasse. Ouais.
C'est malade.
Ouais, c'est juste que c'est loin encore.
Ah, c'est sûr, hein, dans 8 mois.
Mais le plaisir, Joe, le plaisir, c'est de le préparer en grande partie.
Ah oui, exactement. Ah,
c'est faire tout aussi le fun de le préparer que de le faire. C'est...
Mm-hmm. Aller chercher mes extraits vidéo, aller chercher tout ce que je vais utiliser. Non, ça m'a redonné un petit kick parce que je la trouvais rough. On s'en reparlait dans les derniers épisodes. C'est quand même un gros mois d'octobre. Puis là, on dirait que ça m'a redonné le petit kick qui me manquait pour continuer. C'est quand même une bonne chose.
Puis justement, il n'y a rien de mieux pour ceux qui sont enseignants en univers social. Il n'y a rien de mieux que de se préparer pour un cours d'histoire. On dirait que tu ne travailles pas. Ben moi, j'ai l'impression... Quand je prépare mes cours d'histoire, moi j'ai du secondaire 3 cette année, que je salue en passant s'ils écoutent, mais quand je me prépare pour un cours d'histoire, j'ai pas l'impression que c'est un travail, tu sais, tellement je trippe et j'aime ça. Mais le 20e siècle, écoute, ça doit être malade.
C'est la plus belle époque, à mon avis.
Ben, parlant de 20e siècle, on va parler de Napoléon. Non, c'est pas vrai. Ça n'a aucun rapport. Professeur Roussel, comment allez-vous?
Ça va très bien. Bonsoir à vous deux et bonsoir à tout le monde dans le chat et les patrons qui sont avec nous ce soir. Oui, et à ceux, nos auditeurs du futur aussi, qui vont écouter le balado en rattrapage. Bonjour, bonsoir.
Oui, on parle aux gens du futur. On vous dit bonjour de 2023, ceux qui nous écoutent en 2040. Parce que oui, ça va être encore disponible cet épisode-là.
Moi, c'est ma semaine de lecture. Je donne le cours, l'analyse de la politique de défense du Canada, cette session-ci.
OK.
Là, c'est la semaine de lecture, puis on retourne.
C'est la semaine de relâche, en gros.
Ouais, mais on relâche pas grand-chose, là, mais...
les profs, oui.
Ben non, les étudiants aussi ont une belle pile de lecture.
Ouais, quand même.
Eh, mais tiens, pendant que je pense aussi, ceux qui voudront peut-être retourner écouter l'épisode qu'on avait fait sur Champlain. Vous rappellerez qu'on était avec Médéric Sioui.
Oui, avec Médéric.
Historien Wendat. Et lui et moi, on faisait une présentation ensemble en fin de semaine à l'Institut d'histoire d'Amérique française. Donc, c'est le congrès annuel.
Et le sujet?
Ça ressemble pas mal à ce qu'on a traité ici, c'est-à-dire donc la petite guerre, ou cette guerre de guérilla menée par les Autochtones et par les Canadiens contre les Anglais. Mais c'est surtout après aussi, c'est-à-dire la guérilla qui a été menée contre les Anglais jusqu'à, dans le fond, la campagne de 1759, donc la bataille des Plaines d'Abraham. Et on regardait la perspective à la fois la lecture de la société canadienne-française ou québécoise par rapport à la lecture autochtone et plusieurs des idées que Médéric a énoncées, en fait, justement samedi. Ça me rappelait beaucoup l'interview qu'on avait faite avec lui sur Champlain. Donc, je vous conseille de retourner voir cet épisode dont j'ignore complètement le numéro. Mais c'est Nouvelle-France Champlain.
Ça fait longtemps, ça me fait penser, Médéric, qu'on devrait le contacter bientôt pour un autre épisode. Qui sait, peut-être la semaine prochaine. Ça serait cool de parler de la guérilla au temps de la Nouvelle-France. Ça serait
de ce temps-ci, on se parle 2 fois par semaine. Okay.
Ah ouais, ben là, ça va être une 3e fois. Bon. Alors, Médéric, là, si vous vous en souvenez pas, là, ben justement, ça fait. Hey, ça doit faire 25-30 épisodes qu'on a poursuivi Médéric.
Ben, ça fait un an, probablement. Parce que je me rappelle, on a parlé Champlain avec pendant que j'enseignais Champlain, puis c'est pas mal là dans l'année qu'on l'enseigne.
OK. C'est vrai. Hein, c'est mois d'octobre, novembre.
On serait dû.
Ouais. Alors, Médéric, si tu écoutes cet épisode, dans les prochaines minutes, tu vas recevoir un texto de ma part. les gars, aujourd'hui, écoutez, une autre série d'épisodes que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas traité, celle de Napoléon. Dans le fond, on s'entend, on n'a pas autant d'épisodes que la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, je pense qu'on était rendu à quoi? 4-5 épisodes?
4.
On a reçu le prof d'histoire.
On avait reçu Biz, on avait reçu, c'est ça, Médéric. Fait que, on avait quand même pas mal de monde, mais là...
Mm-hmm. J'avais fait le premier aussi sur la guerre, je me souviens bien.
Oui, c'est vrai. Ouais. Fait qu'on avait Stéphane comme invité aussi.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça, dans le fond, notre série sur la Nouvelle-France avait quand même quelques chapitres, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on va continuer sur Napoléon. Napoléon, ça fait une trentaine d'épisodes, quasiment 31 épisodes qu'on n'a pas parlé. Et puis, dans le fond, notre premier épisode, te souviens-tu du numéro? Je pense que c'est quoi? C'est...
239
31 épisodes, on était à 270. Fait que 239, si je me souviens bien. Dans le fond, on parlait de Napoléon, qui était-il et comment il s'était...
Ouais, 249, Jay.
249.
Je te confirme que j'allais dans la face sur Spotify, épisode 249.
OK, fait que c'est pas ça, ça fait 21 épisodes. Fait que bon, quasiment 5 mois, mais quand même, ça faisait longtemps.
Puis on en avait parlé, me semble, à la fin de l'été, à la fin de l'été ou au printemps,
pas à la fin de l'été,
en disant que le film s'en venait.
Ouais, ouais, c'est ça, ça devait être au printemps.
Le 19 mai. 19 mai qu'on en a parlé.
19 mai, parce que je me rappelle, on parlait justement, comme tu as dit, on parlait qu'un film s'en venait. Les premières bandes-annonces sortaient, des petites bribes de bandes-annonces, des images de Joaquin Phoenix en Napoléon, mais là. On est prêt, là. Dans un mois, c'est la grande sortie du film Napoléon que, selon moi, j'ai hâte de voir la performance de Phoenix là-dessus, mais ça, je crois qu'il va fracasser, il va transpercer l'écran.
Moi, je pense que ça va être un sérieux concurrent au film de l'année contre Oppenheimer.
Ah, film de l'année, ben lui, dans 2020, ouais, c'est vrai, 2023, Oppenheimer, c'est vrai.
Ou contre Barbie aussi.
Barbie, mais Barbie, c'est un joke, là. Au box-office, ça fait un tabac, là. Mais Oppenheimer...
Ouais, mais on s'entend qu'au niveau qualité, je sais pas si tu peux comparer ça dans la même catégorie.
Non, non, c'est ça. Est-ce que vous l'avez
fiction,
écouté?
Est-ce que
vous l'avez écouté,
non,
Barbie?
Non, je l'ai pas écouté.
OK, mais quand même, mais des bons messages. Ma blonde m'a fixé, m'a attaché sur mon sofa avec des écarteurs à yeux comme dans Orange Mécanique. Et puis finalement, j'ai dit, tu peux les enlever, les écarteurs à yeux, c'est pas si pire, c'est bon. Non, c'est pas si mauvais que... je pense qu'on avait des idées préconçues sur Barbie, le Barbenheimer, hein,
bah,
cette époque, cet été qu'on a vécu.
C'est surtout parce que mon temps, il est limité dans la vie, fait que j'avais pas 3 heures à mettre sur un film qui m'intéresse à moyen.
Ouais. Ben, il est quand même long, comme tu dis, c'est 2 heures, un bon deux heures. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que Napoléon, on en a parlé au printemps, tout ça, et là, on a la bande-annonce, OK? On a la bande-annonce du film. Est-ce que ça vous tente de l'écouter, les gars, avec moi?
Là, ça va se marcher.
C'est le temps
comment
de dire,
refuser ça?
C'est le temps de dire oui.
Je l'ai même pas écouté en plus, c'est cool. J'ai
aucune
idée ce que tu nous fais jouer.
OK, ben regarde.
Non, j'ai pris la peine de rien écouter. Je voulais pas me faire spoiler parce que je me doutais qu'on allait en parler.
OK. Ben en espérant que ça marche. En espérant que ça marche, mais ça marchait tantôt. Alors, en espérant aussi ne pas se faire striker par Facebook.
Ah, c'est sûr que Facebook te strike. Sûr. Mais c'est dans un groupe privé. Fait que...
Ouais, on essaye ça. Fait que on passe ça maintenant. Attention, c'est parti.
Votre Majesté, nous sommes découverts. Bien.
Attendez!
On est sur la glace!
C'est un piège!
Retirez-vous!
Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier, ne pouvant prétendre à aucune charge. Mais je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César.
Quel est votre nom ?
Napoléon.
Le cours de ma vie vient-il de changer ? Napoléon.
Je dois vous prévenir. Je ne serai pas commandant en second. Mais c'est par le feu que je l'emporterai. Je suis destiné à de grandes choses. J'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau et je l'ai placée sur ma tête.
Tu crois être un grand homme. Tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. Dis-le.
Je pense que je parle au nom de tous quand je dis que nous dormirons beaucoup mieux sans cette vermine.
À qui est ce pays ? À moi.
Wow.
Oh, que ça a l'air bon, là. Ça a l'air,
ça a l'air malade. On n'a pas le choix d'aller voir ça au cinéma, Jay.
Non, il faut y aller. Il faut y aller, puis regarde...
Ça renforce mon scepticisme.
Ben justement, avant de commencer sur la bataille de Trafalgar, j'aimerais qu'on parle de cette bande-annonce. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, là. OK, il y a beaucoup d'éléments. Au pire, je pourrais, attends un petit peu, je pourrais la remettre en background, mais sans le son. Comme ça, on pourrait en parler en même temps. Puis juste me dire, Stéphane, fais arrêt sur image.
En partant, un film sur la France avec des acteurs anglais qui parlent anglais, traduit en français par-dessus. Je trouve que ça enlève un peu de crédibilité.
Et ils auraient pu aussi lui donner son accent corse, puisqu'il n'a jamais perdu son accent corse de sa vie, semble-t-il.
Mais as-tu remarqué quand il se fait demander par Vanessa Kirby qui joue Joséphine? Quel est votre nom? Napoléon. Je pense qu'il dit un petit peu.
Ah, peut-être, ouais. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler là, des phrases.
Il a dit 15 mots pendant, ouais, c'est ça.
Ça sera pas trop long, là, les gars, là, parce que.
Tu feras du montage au pire.
Ouais, c'est ça. Non, c'est en podcast, mais on me demande de faire la vérification à deux facteurs. Là, puis là, ça...
Oh my god, mais quelle espèce de niaiseur.
Ah, c'est du niaiseur.
Même si Napoléon commandé, c'est c'est le commandant qui a agi comme commandant en chef dans le plus grand nombre de batailles, je ne crois pas qu'il ait fait le coup de feu lui-même ou qu'il était impliqué directement, c'est-à-dire que sa personne ait combattu.
Jamais.
Le seul cas où ça pourrait ressembler à ça, c'est dans les dernières batailles de l'Empire en 1814, quand il... Lui-même a une formation d'artilleur. D'abord, c'est pas ni un cavalier, ni un fantassin, c'est un artilleur. Il va, à quelques reprises comme ça, pour encourager ses troupes, pour fouetter ses troupes, il va pointer lui-même le canon. C'est comme pour montrer aux jeunes artilleurs.
Donner l'exemple.
Mais de le voir combattre avec une épée ou de le voir, tu sais, comme au milieu d'un... Sauf quand il est très jeune, il assiste donc à un certain nombre d'événements dans le Paris révolutionnaire. Je pense pas que Napoléon ait jamais payé de sa personne dans une bataille.
Mais en même temps, t'as comme pas le choix dans le contexte du film, sinon tu fais juste voir un personnage principal qui est pas dans l'action puis qui est en train de se passer sur le bord de la ligne.
Mais là, j'ai fait arrêt sur image, excuse-moi Stéphane, mais là on a vu Napoléon qui était tu m'as dit hors d'onde tantôt que ça, c'est une reconstitution d'un chapitre de la bataille d'Austerlitz, c'est ça?
Mm-hmm, oui. Okay.
Est-ce que Napoléon, est-ce qu'il menait ses hommes comme ça? Là, on le voit en avant de ses hommes avec dans le fond, ses ennemis devant lui. Là. C'est des tchèques, comme tu m'as dit. Est-ce que ça s'est réellement passé comme ça?
Oui. En fait, donc la bataille d'Austerlitz, les adversaires, c'est des Russes et des Autrichiens. Mm-hmm. Austerlitz elle-même est une ville, je pense, qui est aujourd'hui en République tchèque. Là. Ouais. C'est-à-dire d'être tout si proche de l'action que ça, c'est assez rare. Mais tu sais, il va le faire au cours de la campagne d'Italie, au début de sa carrière, encore pour donner l'exemple, là, pour entraîner ses troupes à sa suite. Mm-hmm. Mais d'être aussi proche que ça. Puis l'épisode que l'on voit dans la bande-annonce, c'est-à-dire vous voyez les troupes russes, ils sont habillés en blanc, qui essayent de s'enfuir. C'est au moment où la bataille est déjà réglée. Là. Les troupes russes qui s'enfuient. La légende veut que les canons français aient tiré sur la glace des étangs. La bataille se déroule en décembre et les étangs d'Austerlitz sont gelés. Que les troupes russes auraient tenté de traverser les troupes russes en fuite auraient tenté de traverser ces étangs gelés et que l'artillerie française, pour leur occasionner plus de pertes, aurait tiré sur la glace pour qu'elle s'effondre. Dans les faits, et on dit qu'il y a 2000 soldats russes qui seraient morts noyés dans ces étangs-là. Pourtant, quand on a fait le dragage des étangs plus tard, beaucoup plus tard, on a trouvé une vingtaine de squelettes, là, tu sais, puis quelques morceaux d'équipement, des choses
on
comme ça.
On est loin des milliers de soldats.
Oui, et là aussi, le peu qu'on voit, parce que là, je me prononce sur quelques images, mais on voit les Français qui découvrent leurs canons comme si c'était caché par des bâches, des draps. En fait, il n'y a pas de piège comme ça qui est mis en place. Les canons se placent très rapidement pour être capables. Parce que là, ils poursuivent les Russes dans cet épisode-là. Il n'y a pas une embuscade là, comme ce qu'on a l'impression qu'on voit.
On le voit sur l'image, justement. Ils découvrent les canons, dans le fond, de ces toiles-là. Pareil comme s'ils attendaient depuis longtemps. On va le voir dans le film. Là, on s'entend que ça sort dans un mois, là, mais voilà.
C'est ça. D'où mon scepticisme, en fait, sur...
Exactement.
Alors, je sens qu'ils vont mettre une histoire d'amour à l'américaine.
On n'a pas le choix, là. C'est sûr que t'as pas le choix. Il y avait Joséphine quand même. Ils n'inventent pas une histoire d'amour. Il y avait quand même une fille importante dans l'histoire.
Mais c'est vrai que Napoléon et Joséphine, c'était un amour passionnel, l'histoire de Joséphine et de Napoléon. Là. il était au front, puis il écrivait des lettres d'amour, etc. C'était un lover, Napoléon.
Je pense que ça viendra pas pourrir le film, je pense.
Non, tu sais. Ridley Scott, il a fait.
Dit.
Ridley Scott, là, il a fait des films historiques où est-ce qu'il y avait des histoires d'amour. Puis ça pas. Mm-hmm. Tu sais, mettons, vous regardez Gladiateur, là, il y a une histoire, mm-hmm. une petite histoire d'amour entre Maximus et puis la fille de Marc Aurèle, hein, si je me rappelle mm-hmm. bien. Mais ça prend pas tout le film. Je pense pas que ça va tourner autour de Joséphine et Napoléon.
Mm-hmm. Non, je pense pas, moi non plus. Je pense plus que ça va être des scènes à grand déploiement puis ben du monde qui se tapoche ça.
Ah oui. Mm-hmm. Cette scène-là, ouais. la campagne d'Égypte, là, on voit pas grand, mm-hmm. grand image.
Il se compare un peu. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment comparé à un empereur romain puis à Alexandre le Grand aussi clairement et aussi.
Oui.
Ouais,
moi j'entends. C'était la mode d'ailleurs à l'époque. C'est-à-dire au 19e siècle, déjà, quand on regardait dans le passé, c'est là où on va mettre cette image très négative du Moyen-Âge. Et aussi, on idéalise l'Antiquité, on idéalise l'Empire romain. Donc, il y a beaucoup de choses rappellent. L'Empire romain, sa gloire, sa grandeur. Donc, qui est tombé dans une métaphore comme celle-là, ce serait vraiment pas étonnant.
Alors,
il y avait un petit caractère aussi, Napoléon, qui faisait que probablement qu'il se
la... Ah ouais.
Il y avait la couronne de laurier sur la tête.
Qui est un autre symbole romain.
Ouais, et puis la couronne, c'est quoi, du Saint-Empire romain germanique qui s'est mis sur la tête? C'était ça, non?
Je sais pas c'est quoi cette couronne-là.
On va y arriver, mais là, pour l'image qu'on voit là, c'est Napoléon qui entre tout bonnement dans un bordel et puis qui va rencontrer Joséphine. Alors voilà, OK, on continue.
Un film de Ridley Scott.
Là, sûrement qu'il va y avoir une espèce de... OK, là, un bateau. Est-ce que tu penses qu'on va parler de Trafalgar, mon cher? Est-ce qu'il y a d'autres batailles? Est-ce qu'il y a d'autres batailles navales?
Napoléon n'a pas été souvent sur un bateau, peut-être pour passer de la Corse à la France, puis ensuite pour aller, quand il était exilé une première fois, à l'île d'Elbe, puis ensuite à l'île Sainte-Hélène. Pas l'île Sainte-Hélène de Montréal, là, l'île Sainte-Hélène dans le sud de l'Atlantique.
Ouais, c'est ça.
Il était exilé, où il va mourir, d'ailleurs.
Ouais. Le bateau, l'Inconstant, alors j'ai bien hâte de voir, il faudrait faire une recherche, est-ce que c'est l'Inconstant qui a amené Napoléon sur l'île Sainte-Hélène, ou bien c'est quoi, l'île d'Elbe, hein, avant qu'il s'enfuit de là, puis qu'il s'en aille perdre la
Waterloo. 1814, c'est l'île d'Elbe, où il va rester quelques mois, puis 1815, c'est l'île Sainte-Hélène.
Alors, il va y avoir sûrement des flashbacks de la Révolution française, je mets un 2$ que ça, c'est Marie-Antoinette.
Mm-hmm.
Sûrement. Alors pendant la
Révolution, ben, il tranche pas mal la tête. Fait que j'ai le feeling que t'as raison.
Check la ouais, ben, remarque qu'il y a eu 2000 quelques personnes qui sont faites trancher la tête.
Ouais, mais ben, blonde de même dans le preview, j'ai le feeling. Que...
Il y avait une sœur, donc une religieuse qui s'appelait Roussel qui a été guillotinée.
Parce que pour se faire,
peut-être quelqu'un dans ma famille.
Une cousine lointaine.
Parce que pour se faire, puis tu une tomate de même, là, juste reculer un peu, là, ça doit pas être quelqu'un d'aimé. Fait que la tomate, boum.
Ah, je serais prêt à gager un petit 2. Ouais. L'image qu'on voit là, justement, avec son sceau d'empereur, c'est tellement son image la plus iconique, je pense.
Oui, oui, la fameuse toile. Je ne sais pas si on peut la trouver vite fait.
Je vais y aller.
La toile de David. Ah, ouais, c'est la toile, le couronnement de David.
Exact. Alors, vous voyez, là, justement, la couronne de laurier, puis la couronne. Je ne sais pas si la couronne de France... Ça doit être
non,
la couronne,
écoute, je pense pas que ça soit. C'est pas une couronne royale. Ça aurait été un impère majeur. Là. N'oubliez pas, là, on est quelques années après la Révolution.
La couronne de Charlemagne, quelque chose comme ça. Tu trouves pas la couronne de Charlemagne, peut-être le Saint-Empire romain, qui est relié par après au Saint-Empire romain germanique?
Peut-être, mais ça m'étonnerait. Okay. Peut-être. Quelqu'un va pouvoir nous le dire dans le chat. Ou...
Là, dans cette image-là, je sais pas si c'est à cause. Ah oui, on le voit, excusez-moi, je vois la main juste ici. Parce que Napoléon va prendre la couronne que tient le pape. Je crois que c'était le pape Urbain dans ce temps-là.
Oui, qui est derrière le personnage qu'on voit. Parce que sur la toile de David, le pape est assis en arrière. Et Napoléon, plutôt que de laisser le pape le couronner, va symboliquement prendre la couronne puis se la mettre lui-même sur la tête.
Exactement.
Il s'auto-couronne.
Là, on va aller voir. Là, pour ceux qui sont en podcast, désolé, allez le voir en vidéo parce qu'on fait on décortique la bande-annonce, justement. Alors voilà, Vanessa Kirby. Et puis là, j'avance un petit peu plus vite. ça ressemble à Waterloo, là.
Ouais.
Cette formation-là, je ne sais pas si on va en parler plus tard. Là.
Les carrés de Waterloo. Ben, on se fera un épisode sur Waterloo, si vous voulez, parce que ce soir, on va être en mer. On ne sera pas au milieu des...
Ouais,
on sera pas dans les plaines de Belgique.
Oui, c'est ça.
On est un peu en retard sur notre pacing.
Mm. Oui, non, c'est pas... Au pire, on le fera en deux parties. Cette image-là, je finis avec ça. On s'entend avec les dômes en arrière. C'est Moscou. Hein? Moscou en feu.
Mm.
Alors, voilà. Ok, c'était tout.
Tu voulais-tu déjà que je montre l'image? Elle est trouvée, finalement.
Vas-y, mon cher, c'est à toi.
La fameuse image de l'empereur.
Ah, écoutez, c'est vraiment le même saut. On voit la décoration.
La couronne de laurier, le sceptre, le saut.
C'est la même affaire. Alors, j'ai vraiment hâte de voir aussi côté costume, ce film-là. Comment ça va être incroyable. Bon, maintenant...
J'ai le feeling que là-dessus, ils vont être assez sur la coche, comme on dit.
Ah oui, c'est ça.
On a la réponse. Guillaume Beaulieu nous donne la réponse. La couronne de Napoléon Ier est un insigne joyau impérial français fabriqué pour l'empereur Napoléon Ier et utilisé lors de son couronnement le 2 décembre 1804. Napoléon appela sa nouvelle couronne la couronne de Charlemagne, le nom de l'ancienne couronne royale de France qui avait été détruite lors de la Révolution française. Ben, voilà. Merci beaucoup, Guillaume Beaulieu.
Donc, c'est la couronne 2.0.
C'est la couronne 2.0 qu'il a nommée la couronne de Charlemagne. J'étais pas loin. J'avais Charlemagne dans la tête. Bon, les gars, on vient de passer la moitié de l'épisode sur la bande-annonce.
Bon, ben Stéphane, il te reste 30 minutes pour résumer Trafalgar. Go, je t'écoute.
Ah, ben écoute, on peut faire 45 minutes, on peut se rendre à 1h15, là. Mais là, aujourd'hui, on veut parler de la bataille de Trafalgar. Mon cher Stéphane, les batailles navales, c'est pas vraiment le fort de la France napoléonienne, de l'Empire français de Napoléon, on s'entend. Là.
Il y a eu deux grandes batailles navales, en fait, celle d'Aboukir en 1798 et celle de Trafalgar en 1805.
Le round 1 et le round 2, on va...
Les deux, dans les deux cas, c'est les Britanniques qui vont mettre une volée par le même personnage, on va parler tantôt, Horatio Nelson, l'amiral Horatio Nelson. Mais cette bataille-là, elle est... OK, d'abord, je vais vous dire, c'est... on a l'impression que c'est en marge de l'épisode napoléonien et pourtant, elle est, selon moi, une des plus importantes dans le sens où elle va déterminer, déterminer pas mal le cours des 10 années suivantes. En fait, j'ai coutume de dire que Trafalgar, jusqu'à un certain point, on va le nuancer un petit peu tantôt, mais jusqu'à un certain point, Trafalgar, qui a lieu en 1805, prépare Waterloo, qui a lieu en 1815. Donc, à ce moment-là, après Trafalgar, il y a une option pourtant essentiel pour Napoléon, qui vient de se fermer. Il y a une porte qui vient de se fermer, puis vu que cette porte-là est fermée, bien, il va être obligé d'emprunter un trajet ou un chemin tout à fait différent qui va éventuellement le mener à Waterloo en 1815.
Est-ce que c'est le début de la fin ou c'est trop tôt pour le dire en 1805?
C'est beaucoup trop tôt pour le dire. En fait, au contraire, ça, c'est une autre raison pour laquelle je trouve cette bataille intéressante. D'abord, il y a les conséquences stratégiques dont on va parler, mais qu'il y a vraiment un paradoxe, si vous voulez, à cette époque-là. En 1805, au même moment, à l'automne 1805, l'Angleterre va accéder, si vous voulez, au titre de puissance maritime mondiale.
Okay.
Avec la bataille, c'est la fin d'un processus qui se préparait depuis un siècle et demi. Mais là, après la bataille de Trafalgar, les Britanniques règnent sur les mers du monde entier jusqu'au début du 20e siècle, voire même jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale.
C'est le début de l'âge d'or maritime.
Vraiment de l'âge d'or. Ça se préparait, comme je vous disais, depuis un siècle. Mais en octobre 1805, là, la marine britannique domine vraiment les mers du monde. Au même moment, c'est ça qui me fascine, c'est qu'à l'automne 1805 aussi, Napoléon est en train de mener la campagne que l'on considère comme la plus brillante, puis il va remporter le 2 décembre 1805 une victoire militaire, la bataille d'Austerlitz, sur laquelle on pourra revenir un jour si vous voulez, mais qui est considérée comme son chef-d'œuvre stratégique. Et là, on approche du pic de l'Empire. L'Empire français, entre 1805 et 1807, est vraiment au sommet de sa grandeur.
J'ai hâte d'en parler.
Parce... C'est comme un pas de recul, puis après ça, il est reparti par en avant. Mm.
Non, c'est parce que les deux se passent en même temps. C'est ça qui est paradoxal. C'est que tu as l'Angleterre qui accède au rang de grande puissance navale ou maritime mondiale, et tu as la France qui, au même moment, elle devient la grande puissance terrestre ou continentale. Mm-hmm. Alors vraiment, tu as comme deux destins parallèles, deux rivales, tu veux, qui... Au même moment, la grande différence, c'est que la domination continentale de la France va durer 10 ans. Ouais. La domination maritime dans l'Angleterre va durer 130 ans.
Ah, c'est ça.
C'est pas tout à fait le même ordre de grandeur. Mm. Puis l'autre chose aussi, ce qui me fascine beaucoup là-dedans, c'est qu'on voit dans la bataille de Trafalgar et dans d'autres batailles aussi, mais Trafalgar est particulièrement intéressante pour ça. Ça illustre à quel point la marine britannique, la Royal Navy, est une machine de guerre extrêmement efficace, d'autant plus que cette machine de guerre-là s'inscrit dans une stratégie globale, ce qu'on appelle une grande stratégie, où l'Angleterre, à la fois par ses activités politiques, économiques et militaires, est en train de se constituer comme l'empire énorme qu'il va être au milieu du 19e siècle.
L'empire où le soleil ne se couche jamais.
Exactement. Donc, et qui a un impact sur nous et nos auditeurs du Québec, du Canada français, parce que c'est dans ce long processus-là que le Canada, si tu veux, va être imbriqué. D'abord, il a été imbriqué à l'Empire britannique en 1763, mais on fait partie de cet empire. On faisait partie de cet empire.
Exact. Une question de Guillaume qui dit, oui. Est-ce qu'on peut dire que Napoléon a contribué par ses guerres à la puissance maritime que les Anglais sont devenus? C'est une très bonne question. Est-ce que ces victoires-là britanniques ont galvanisé l'Empire britannique, justement, ce succès-là, oui, ce succès maritime-là, si on peut dire?
Oui, parce que...
Il y a aussi ses colonies et puis aussi les on s'entend, en ayant des colonies partout autour du globe, t'as pas le choix d'être une puissance maritime, veux pas, là.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est tout le processus qui va mener à ça. C'est qu'en fait, avec la défaite franco-espagnole à Trafalgar, l'Angleterre n'a plus de rival. Elle a éliminé un par un tous ses rivaux.
La grande armada espagnole, c'est fini.
Oui. Les Espagnols, donc, avec la grande armada en 1588. Mm-hmm. Ensuite, ça a été une série de guerres assez malheureuses pour les Britanniques, mais dont ils vont sortir finalement plus puissants. Une série de guerres contre les Pays-Bas. Contre la Hollande au 17e siècle.
Après, c'est
ils vont. C'est-à-dire, la marine américaine n'est pas un rival pour les Britanniques jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale.
Mais quand même, côté orgueil pour le pays de se faire battre par une de ses colonies, 13 de ses colonies qui étaient peuplées d'agriculteurs quasiment avec des fourches, ça doit être dur.
Les Américains n'avaient pas de marine. En fait, la marine que les Américains vont utiliser, c'est la marine française.
Non, mais je veux dire, pas la marine américaine, mais je veux dire la bataille en tant que telle, là, la révolution américaine. Je veux dire, ça va faire mal quand même à l'image des Britanniques, là, pas du côté naval, mais côté militaire.
Oui, très mal, c'est sûr. C'est sûr que c'est très difficile à encaisser parce que c'est encore une partie substantielle de l'Empire qui vient de quitter, là, qui vient de faire sécession.
Exact.
Mais une chance, il leur restait le Québec.
Oui, c'est ça. Exact. un des points que je t'ai amené, Stéphane, c'est dans le fond, les yeux de Napoléon se posent vers l'Angleterre. Pourquoi il est obsédé par l'Angleterre? Parce qu'on sait que Napoléon veut... j'entends gricher, ce que c'est toi, Joe? Ça se peut-tu? Je pense que tu as commencé à gricher. Tu as recommencé à gricher, Joe. Malheureuse. Oh. Ah non. Là, aujourd'hui, c'est du côté à Joe que ça va moins bien, malheureusement.
Ah, ça griche encore?
Oui, ça griche. Ouais.
Non, mais je vais juste fermer mon micro puis je vais vous abandonner, je pense.
Non, mais au pire, reconnecte-toi comme tantôt puis on revient, ça marchait. Là. Jusqu'à temps que tu quittes, là, 2 minutes, ça allait super bien. Ah, il l'a fermé. Bon. Mais au pire, je pense qu'il va revenir. Ma question, Stéphane, dans le fond, pourquoi Napoléon veut envahir l'Angleterre? Est-ce que c'est à cause que c'est le rival millénaire des Français? C'est la gloire, justement, de prendre une île qui n'a jamais été conquise? Ben, à part par... le seul qui a réussi à prendre l'Angleterre, c'est Guillaume le Conquérant, on s'entend, là? Des siècles avant Napoléon. C'est quoi qui est derrière ce projet de conquête des îles britanniques?
Parce que, en fait, tu l'as dit toi-même, là, on a le résultat, la guerre entre la France et l'Empire britannique, donc à l'époque de Napoléon, tu peux juste mettre ça dans une suite de guerres. En fait, c'est la dernière grande guerre entre la France et l'Angleterre. Il va y avoir des crises entre les deux au 19e siècle, mais à partir du début du 20e siècle, ils deviennent des alliés. C'est presque alliés. Mais donc, c'est la suite de toute une série de guerres. Et en particulier, surtout si on commence à l'époque de Louis XIV, donc fin du 17e siècle, donc 1688, t'as la guerre de la Ligue d'Augsbourg, c'est qu'on a vraiment là une rivalité coloniale entre deux grandes puissances qui cherchent à constituer leurs empires. Ouais. Et donc, on pourrait dire que de 1688 jusqu'à 1815, jusqu'à la défaite de Napoléon à Waterloo, t'as cette rivalité donc entre les deux grandes puissances. Et la guerre à l'époque de Napoléon n'est qu'un épisode dans cette longue guerre de, vous savez, de compétition hégémonique entre la France et l'Angleterre.
De succession de guerres qui n'arrêtent pas. Mm. Comme tu dis, la guerre de Ligue d'Augsbourg, après ça, t'en as eu plein. La guerre de 7 ans, on parle juste aux colonies qui ont en Amérique du Nord, sont collées. C'est sûr que ça allait péter partout. Là, la Nouvelle-France, les 13 colonies, etc. Alors, Joe, on fait un nouvel essai. Allume ton micro. Ça griche un petit peu, mais je pense qu'on est capable de l'endurer. Il ferme son micro, OK?
La raison pour laquelle tu poses la question, est-ce que pourquoi il veut absolument envahir l'Angleterre?
Oui.
Parce que c'est la seule manière de venir à bout de l'Angleterre. Précisément, on va le voir, à cause de sa flotte, puis à cause des ressources qu'elle parvient à pomper dans ses colonies, et surtout à cause du commerce qu'elle fait, l'Angleterre a les moyens de résister à Napoléon tant ou si longtemps qu'il ne débarque pas sur l'île britannique. Parce que la faiblesse des Anglais, c'est leur armée de terre. Ils n'ont pas une armée permanente très nombreuse et probablement que à seul face à l'armée de Napoléon, alors que la France, elle, a une armée de terre qui est extrêmement puissante. Ben, si les Français parviennent à prendre pied sur le sol anglais, c'est en effet de l'Angleterre. Et donc, Napoléon avait eu des projets de conquête, mais ce qui bloque, ce qui empêche la France de conquérir l'Angleterre, c'est cette fichu étendu d'eau entre l'île britannique et le continent européen, qu'on appelle la Manche, et qui, à certains endroits, est très, très étroite, 15 kilomètres.
T'es voie d'arriver de loin, là, les Français ou les Anglais, peu importe. Il y aurait bien beau dire, OK, on va passer par une autre place. Les Britanniques sont tellement bien situés qu'ils voient tout. Là. Ils peuvent se préparer à toute éventualité. Là.
Et surtout, en fait, la stratégie britannique qui va s'installer déjà, qui était déjà en place et qui va se perfectionner au cours des guerres napoléoniennes et qui va demeurer, dans le fond, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est d'abord, d'avoir une marine très puissante pour empêcher tout envahisseur de débarquer sur les îles britanniques, et ensuite aussi pour protéger les lignes commerciales, parce que tout le commerce se fait par navire à l'époque. Donc, pour continuer à avoir accès à ces richesses de l'Empire, qui elles-mêmes vont permettre de renforcer la puissance militaire. La deuxième partie de cette grande stratégie britannique, c'est de s'allier ou de soutenir tout État qui va s'opposer à la puissance dominante en Europe. En l'occurrence, à cette époque-là, c'est la France. Donc, depuis Louis XIV, c'est vraiment la France la principale menace. Contre les intérêts britanniques. Donc, les Britanniques, avec leur argent, la richesse que leur procure le commerce, vont subventionner les ennemis de la France. Ils vont donc se payer des guerres par procuration pour continuer à occuper les Français, puis pendant qu'ils combattent d'autres adversaires, ben ils pensent pas envahir l'Angleterre. Mais pour Napoléon, le dites-vous, la clé, s'il est capable de contrôler la Manche pendant 24 heures ou 48 heures, le temps de traverser son armée, il vient de mettre à terre son principal adversaire. Et c'est pour ça que la bataille de Trafalgar est très, très importante, de mon point de vue. C'est qu'elle va mettre la clé dans cette option-là. Ben Napoléon ne pourra jamais traverser la Manche à cause de la supériorité navale britannique. Et Trafalgar enlève toute possibilité aux Français de faire ça. Avec la conséquence, qu'est-ce que va être obligé de faire Napoléon? Ben, il va être obligé de faire une fuite en avant, de combattre les adversaires que l'Angleterre met sur son chemin, Et il va même s'obstiner lui-même à déclencher deux guerres en 1812 contre la Russie, en 1807 contre l'Espagne, qui vont ruiner, qui vont tellement occuper ses troupes, qui vont ruiner donc ses possibilités de succès à long terme.
Ben justement, là, je suis en train de rechercher une map, justement, parce qu'il y a souvent qu'il y a des gens qui se disent Trafalgar, OK, oui, mais c'est où ça, Trafalgar?
Ah oui, hein?
Parce que c'est pas un nom qui est très commun, on va se le dire. Attends un petit peu, mon cher, je vais montrer la map.
Yves Nadeau, la réponse, c'est que oui, c'était dans les cartes de faire. Yves Nadeau, donc, il fait le commentaire, ils auraient dû faire un tunnel sous la Manche. Ils ont commencé à le faire.
T'es-tu sérieux? Il commençait.
Tout à fait. Il y avait un projet de creuser, parce que, tu sais, quand tu dis, ben, je suis obligé de creuser sur 20 km, ben, il y a des mines. C'est un énorme travail. Mais il y avait cette idée de creuser effectivement un tunnel pour débarquer en Angleterre.
Wow! Dans les années 1800. Alors, vous voyez, ben là, vous voyez, on s'entend, c'est pas très, très clair, là, désolé de la carte, là. Mm-hmm. Mais dans le fond, Trafalgar, c'est sur la côte, la côte ibérique. Dans le fond, la côte espagnole, à l'entrée de la mer Méditerranée, le fameux détroit de Gibraltar.
Exactement. En fait, Trafalgar, je pense que le terme en espagnol signifie le côté ouest du cap ou de quelque chose comme ça.
OK.
Donc, c'est au large de l'Espagne, au large du sud de l'Espagne, c'est vrai. Et c'est un point stratégique aussi parce que c'est le port de Cadix qui est là, où la flotte française et espagnole cherche à se réfugier, qui est un port important.
Alors, vous voyez un peu en image, là, pour ceux qui sont en vidéo avec nous. Là, c'est un dessin que je viens de prendre là, à la va-vite, là, mais vous voyez un peu... c'est une map, justement, avec la flotte de Nelson, alors les bateaux de l'Alliance franco-espagnole ici dans la baie de Cadix, justement. Fait que, est-ce qu'on y va, mon chat, avec cette fameuse bataille? Joe, ça va toujours bien, une question?
Ça griche-tu?
Non.
Ah non, ça va, là?
Non, ça griche pas, là.
Gosh.
Ça griche-tu?
Qu'est-ce qui griche de bon, toi?
Qu'est-ce que tu vois,
ben moi, en partant à Trafalgar, je pensais que ça venait avec Trafalgar Square en Angleterre. Fait que je pensais pas que c'était en Espagne. Déjà, je viens d'apprendre quelque chose.
Ben oui, le Square ou la place Trafalgar à Londres, ben c'est nommé en l'honneur de la bataille de Trafalgar.
OK, mais tu vois, je pensais que Trafalgar, c'était déjà en Angleterre avec la bataille. Fait que j'étais juste pas à la bonne place, mais pas partout. Ouais. Quand je disais que je connaissais rien, c'est Napoléon.
Mais au Square Trafalgar à Londres, vous avez cette immense colonne qui fait 40 mètres de haut et sur laquelle il y a la statue de Nelson. Puis si vous vous demandez un peu de quoi ça a l'air, ben allez dans le Vieux-Montréal, allez sur la place Jacques-Cartier. Au nord de la place Jacques-Cartier, vous avez la colonne Nelson de Montréal qui a été érigée avant la colonne de Londres, en fait, et qui commémore la mémoire de Horatio Nelson, donc l'amiral. Mais
pourquoi il est important pour le Canada, Horatio Nelson, au juste?
En fait, il est important pour l'Empire, et je ne sais pas pourquoi il y a des bourgeois de Montréal qui, dès 1809, donc on parle de...
Des Montréalers.
On parle de 4 ans après la bataille, vont dire que ben, c'est une bonne idée de faire une colonne avec la statue d'Horatio Nelson dans le Vieux-Montréal. C'est presque le plus ancien monument commémoratif parce que quelques jours avant l'inauguration de la colonne de Montréal, il y en a une autre à Dublin, en Irlande, qui a été érigée aussi. Puis vous avez, c'est juste dans les années 1840, on va ériger la colonne Nelson à Londres, qui est pas mal plus haute que celle de Montréal, là, on s'entend. Là. Mais c'est ce genre de monument que vous pouvez retrouver dans plusieurs endroits dans l'Empire britannique. Donc, nous, on a la nôtre à Montréal. Et que, généralement, les nationalistes québécois n'aiment pas vraiment, parce que c'est ça un rappel très clair de la soumission des Français d'Amérique à l'Empire britannique.
Ouais, de plus en plus, notre rapport aux Britanniques s'émiette, on va dire ça comme ça. Alors, pour avoir une image plus juste d'Horatio Nelson, eh bien, le voici, ce cher Nelson. Comment tu le décrirais, Stéphane? Un génie militaire, un génie de la bataille?
Il est dépeint souvent comme ça, comme un génie militaire de la mer. C'est un on le considère souvent comme un des plus grands amiraux dans l'histoire, un des plus efficaces. Je sais pas comment on peut dire qualifier la grandeur. Là. Il commande dans 4 batailles importantes. D'abord, c'est un marin, je veux dire, depuis qu'il est tout jeune, son oncle l'a amené avec lui. Son oncle, qui était capitaine de navire, l'a amené avec lui. Il a une très, très grande expérience de la mer. Il commande dans 4 batailles qu'il va remporter. 2 qui sont très importantes pour Napoléon. En fait, il va sacrer 2 volées à la marine française qui vont, dans les 2 cas, contrecarrer les plans de Napoléon. Ouais. Trafalgar, dont on traite ce soir, mais aussi la bataille d'Aboukir, 7 ans plus tôt, qui va coincer Napoléon, qui est en Égypte à ce moment-là. Et avec la destruction de la flotte française à Aboukir, ben, Napoléon est comme pogné en Égypte pendant un temps, là, et qui va devoir encore faire une fuite en avant. Et à un moment donné, il va réussir en catimini à retourner en France. Mais déjà, Nelson vient de mettre un gros caillou dans le soulier de Napoléon en 1798.
Alors,
c'est un homme très agressif. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est apprécié de ses soldats et de ses officiers, notamment parce qu'il est peut-être plus humain que la plupart des autres officiers dans toutes les marines du monde à l'époque, parce que vous voulez pas être marin au 19e siècle ou avant ça. Là. Tu sais, quand on a fait l'épisode sur la piraterie, là, que vous pouvez aller réécouter si vous voulez, on disait, ben, pourquoi, qu'est-ce qui poussait les gens à rentrer dans des activités de piraterie? Mais c'est que la vie à bord des navires depuis des siècles, c'est absolument épouvantable. C'est vous êtes vraiment dans un endroit désagréable, puis il y a des abus physiques commis par les officiers. C'est un monde extrêmement dur. Ben Nelson était considéré comme peut-être plus soucieux.
Excuse-moi, vas-y.
Non, excuse-moi.
Peut-être un peu plus humaniste.
Ouais, mais j'allais dire les conditions de vie dans les navires, n'importe quelle flotte à cette époque-là, c'est... Écoute, la vie dans le navire, c'est que tu frottes le plancher du pont à longueur de journée, au grand soleil ou à pluie. Les lits, j'ai écouté un documentaire là-dessus justement pour me préparer pour l'épisode de ce soir. Puis les lits, là, c'est genre 35 cm de largeur, c'est juste assez pour être de côté. C'est vrai.
Quand
les
c'est maladies, pas des hamacs.
Les hamacs, ouais, aussi. Les maladies là-dedans, non, c'est vraiment, vraiment pas jojo. Il y avait un commentaire d'Yves Nadeau qui dit « La fameuse main dans le manteau était-il un signe important? » On sait que Napoléon est souvent décrit avec une main dans le manteau aussi. Mm-hmm. C'est un signe de cette époque-là, mais...
Non, c'est pas ça du tout. C'est que sa manche est attachée sur son manteau. C'est pas qu'il y a la main sur la poitrine. Ouais, il a perdu son bras à la bataille de Saint-Vincent, je pense.
C'est justement pourquoi je ramène l'image, parce que j'ai remarqué que la manche avait de l'air un peu molle, on s'entend. Mm-hmm. Fait qu'il manquait un bras.
Oui, c'est un il manque un œil, il manque un bras. En fait, c'est un estropié de guerre. Là. Et il est relativement jeune. À la bataille d'Aboukir, il a, je pense, 39 ans. Puis à la bataille de Trafalgar, où il va mourir, il a 47 ans. Donc, il est très jeune, mais il a été blessé dans des batailles, notamment celle de Saint-Vincent, où il va perdre son bras. Vous voyez aussi sur l'image que Jay nous montrait, il y a aussi beaucoup de décorations. Ça, c'est un autre trait de sa personnalité assez fascinant. Il a un besoin, une soif de reconnaissance, de savoir qu'il a commis ces exploits-là et que tout le monde l'adore ou l'adule. C'est pour ça qu'il y avait une profusion de médailles. Et lorsqu'il n'était pas admiré à ce qu'il considérait comme sa juste valeur, il devenait, semble-t-il, assez désagréable. Okay, il va être connu pour une autre histoire. Ça, c'est plus ça relève du potin. Mais il va faire scandale à Londres aussi, ça va lui causer des problèmes, parce qu'il tombe profondément amoureux de la toute jeune épouse de l'ambassadeur britannique à Naples, et qui va devenir sa maîtresse, et en fait son mari, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, va comme fermer les yeux, en fait va carrément accepter cette relation extra-conjugale, et ça va être le grand amour de la vie de Nelson, elle s'appelle Emma Hamilton, pardon, Emma Hamilton. Et il va traîner son portrait partout, à bord de son navire, par exemple, dans le carré des officiers, vous avez le gros portrait d'Emma. Et ça fait tellement scandale, en fait, qu'au moment où Nelson meurt, en fait, il est tué à la bataille de Gibraltar, au moment où il y a ses funérailles à Londres, même s'il a explicitement demandé dans ses volontés, dernière volonté que Emma soit présente et reçoive une partie de son héritage. Il n'y a rien de ça qui va arriver. On va la tasser. Elle va assister aux funérailles de Nelson dans la foule comme une inconnue et elle va mourir dans la pauvreté quelques années plus tard. Mais ça fait, c'est une relation donc, qui faisait scandale à l'époque, même si Nelson était considéré, puis encore aujourd'hui,
dans la haute comme, société britannique,
comme un des plus grands militaires de l'histoire britannique.
Et puis son vis-à-vis à la bataille de Trafalgar sera ce jeune homme, je veux dire ça comme ça, fin trentaine, début quarantaine. Ce cher Villeneuve. Alors lui, c'est comme un peu l'exact contraire de Nelson. Nelson, le héros, le stratège, le génie naval. Villeneuve, ça a moins bien été, hein, la bataille d'Aboukir. Napoléon en a un peu contre lui. Comment tu décrirais Villeneuve, mon cher Stéphane?
Ben, je le décrirais essentiellement comme un produit de la marine de l'époque. C'est un officier qui n'est pas particulièrement mauvais, qui n'est pas particulièrement, qui n'est pas spécialement incompétent. Il commande, tu as raison, à la bataille d'Aboukir. Il commande l'arrière-garde de la flotte française et il va réussir, lui, à s'enfuir avec ses navires. Okay. Et même, il va passer pour un héros pour ça parce qu'on va dire qu'il a réussi à sauver une partie de la flotte lors de cette bataille-là qui va être très coûteuse pour les Français. Donc, on lui confie, Napoléon lui confie le commandement de la marine française. Et d'une part, les ordres sont pas clairs, c'est-à-dire que Napoléon se fie à son initiative, puis justement, du sens de l'initiative, il n'y en a pas trop. Fait qu'il est un petit peu perdu vis-à-vis des ordres.
On le disait un peu pas gêné, mais un peu confus, pas trop sûr de ses moyens.
Oui, puis en plus aussi, bon, la marine française à l'époque, elle est quand même relativement bonne, mais elle n'est pas de taille face à la Royal Navy. Même si elle a des navires en bonne condition, l'entraînement, la qualité des troupes, la qualité du commandement est pas comparable du tout à ce qu'on retrouve du côté des Britanniques. Et la job que lui confie Napoléon est vraiment compliquée. C'est-à-dire que Napoléon dit, lui commande la flotte française en Méditerranée. Son boulot, c'est de sortir de la Méditerranée, aller rejoindre les alliés espagnols qui ont accepté de mettre leur flotte en commun avec celle des Français, d'aller jusque dans les Antilles pour attirer la flotte britannique. On veut que les Britanniques partent à sa poursuite.
C'est bon, ce soir-là. On s'en va directement dans les Antilles. Raconte ça, excuse-moi. C'est vraiment bon.
Puis le but, c'est qu'une fois que les Britanniques sont rendus dans les Antilles, t'essaies de t'esquiver, puis Villeneuve et sa flotte doivent remonter très rapidement dans la Manche pour couvrir l'invasion de l'Angleterre par les troupes de Napoléon. C'est comme ça que Napoléon veut garder, pendant quelques jours qui sont cruciaux, le contrôle sur la Manche. C'est un plan très compliqué parce qu'il y a plein d'impondérables dans ça, qui ne fonctionnera pas parce que Nelson va partir effectivement à la chasse de Villeneuve.
Mais
Villeneuve ne parvient pas à revenir à temps et va retourner s'enfermer dans le port de Cadix. Et c'est là où le plan de Napoléon commence vraiment à dérailler parce que, je vous ai dit, la stratégie britannique est en deux temps. D'une part, vous avez protégé l'Angleterre par ce qu'on appelle le mur de bois, le Wooden Wall, qui est en fait constitué par la marine britannique. Et d'autre part, de payer du monde pour faire la guerre aux Français en Europe. Et là, ils ont payé l'Autriche et la Russie. Ils ont convaincu l'Autriche et la Russie de déclarer la guerre à la France. Fait que Napoléon, qui a toute son armée massée dans le nord de la France, prêt à traverser la Manche pour envahir l'Angleterre, ben, il va être obligé de se tourner de bord puis d'amener son armée en Allemagne où, comme je le disais tantôt, il va remporter la victoire qu'on considère comme étant son chef-d'œuvre. Je suis un peu critique vis-à-vis ça, on pourrait y revenir dans un autre épisode, mais ça mène à la campagne d'Austerlitz. Donc, au moment où Villeneuve s'enferme dans le port de Cadix avec sa flotte, le plan de Napoléon est déjà ruiné de toute façon. Napoléon n'est même plus sur les côtes de la Manche. Il est déjà en train de marcher à pleine vitesse.
Est-ce qu'il a mis de côté ce qu'il se dit? Une défaite là, c'est pas grave. Moi, je me concentre sur Austerlitz.
Est-ce qu'il a mis parce qu'il voit que les Britanniques ne sont pas dangereux, ne constituent pas une menace directe parce qu'ils n'ont pas vraiment d'armée. Ils ne pourraient pas débarquer en France. C'est pas ça qui préoccupe Napoléon.
Non, lui, c'est les Autrichiens.
C'est l'orgueil impérial qui a mangé un mauvais coup, par exemple.
Ouais, ça d'une part. Mais là, au moment où on se parle, c'est ça, là, Napoléon a décidé qu'il irait de bord contre les Autrichiens puis éventuellement contre les Russes. Villeneuve est enfermé dans le port de Cadix, mais Napoléon lui envoie deux trucs contradictoires. Il envoie d'abord l'ordre à Villeneuve de se préparer à appareiller pour retourner en Méditerranée et soutenir éventuellement de loin la campagne que Napoléon s'apprête à faire contre les Autrichiens. Mais en même temps, Napoléon nomme un nouveau commandant de cette flotte-là, sans le dire à Villeneuve, et qui, ce type-là, est en marche vers Cadix pour remplacer Villeneuve, j'oublie son nom, mais pour le remplacer à la tête de la flotte française. Et Villeneuve va apprendre que son remplaçant est en route. Fait qu'il va se dépêcher d'obéir au premier ordre qu'il a reçu pour ne pas avoir son rival qui débarque en ville. Alors, Villeneuve, donc, ordonne sa flotte de lever l'ancre avec les navires espagnols et français. Et qui vous pensez qu'il l'attend dans le détour à la sortie du port de Cadix? Vieux Horatio Nelson. Ouais. Et c'est là que va se dérouler la bataille de Trafalgar.
Oh, wow. Alors, j'ai mis cette image-là. C'est, dans le fond, c'est le navire, le Victory de l'armée, de la marine anglaise, la Royal Navy. Un bateau incroyable. Vous regardez ça, trois rangées de canons. On parle d'à peu près, c'est quoi? 116, une centaine de canons pour le Victory britannique. Et puis, vous avez aussi, il y a de l'air moins impressionnant, là, mais le Bucentaure, attends un petit peu.
Si je peux me permettre, pendant que tu cherches, vous aimez...
C'est une des seules images qu'on a, le Bucentaure, avec deux rangées de canons, qui a l'air quand même assez impressionnant, mais c'est un dessin, malheureusement, c'est pas une photo. Parce que
mais on parle quand même de 80 canons, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, fait que ça rentre dans le tas quand même, là.
Mais si vous avez la chance d'aller à Londres, et là je m'adresse à tous nos auditrices et auditeurs, si vous avez la chance d'aller à Londres, ben le Victory, qui était le navire à bord duquel Nelson commandait la flotte britannique à Trafalgar.
Le vaisseau amiral, dans le fond.
C'est le vaisseau amiral, tout à fait. Ben, il est encore là, donc vous pouvez le visiter. Et vous avez l'endroit où Nelson, vous pouvez visiter l'endroit où Nelson est mort,
oui,
donc dans les cales du navire.
Oui, il y a comme une espèce de pierre, pas pierre tombale, mais une espèce d'affiche que Nelson est mort là, exactement, sur le plancher. Ouais.
Et vous pouvez voir, ça vous donne une idée des conditions absolument épouvantables dans lesquelles... aujourd'hui, c'est propre, c'est vide de tout objet là, qui peut se déplacer.
Il n'y a plus de rats, il n'y a plus de...
Il n'y a plus de rats, ça pue plus, il y a de l'éclairage électrique, alors qu'à l'époque, tu avais une ou deux petites lanternes pour essayer d'y voir clair. Là. Mais c'est quand même assez intéressant à visiter, ce navire-là.
Et puis là, Stéphane, je te mets cette image-là parce que je veux que tu nous parles de la stratégie de Nelson. Okay? Parce que pour ceux qui sont en podcast, désolé, mais...
On va vous décrire l'image.
Là, tu disais que c'est une formation. C'est quoi le croisé en T? C'est ça, formation-là?
C'est une manœuvre qu'on appelle croiser le T. Je vous explique en deux mots. À l'époque, la manœuvre ou la manière la plus commune de combattre dans la marine, vous savez, tous les canons sont orientés sur les flancs des navires. Vous n'avez pas de canons qui tirent, ou très peu en tout cas, qui peuvent tirer par en avant ou par en arrière, contrairement aux navires qui vont avoir des tourelles un siècle plus tard. Donc, les navires se mettent en ligne les uns derrière les autres pour offrir le plus grand portée de tir contre l'adversaire. Et l'adversaire, généralement, va faire pareil. Ben, il va se mettre aussi en ligne, puis il va exposer, il va montrer ses
flancs. Une bonne bataille de rangée sur l'eau cette fois-ci.
Exactement, c'est ça. C'est classique, là. Les deux flottes se déplacent en parallèle puis se tirent dessus. Pas très efficace, semble-t-il, comme moyen d'emporter la victoire. La manœuvre la plus valorisée, c'est de dire, moi, je reste en ligne, mais je m'organise pour couper la route de mon adversaire, de manière à ce que mon adversaire soit de face, donc il n'y a pas beaucoup de canons qui puissent tirer contre moi, mais moi, j'ai tous mes canons de tous les flancs de mes navires sont capables de tirer sur l'adversaire. C'est ce qu'on appelle croiser le T. Idéalement, la flotte la flotte qui représente la barre supérieure du T est capable de décharger tous ses canons contre la flotte qui s'en va dans sa direction. À Trafalgar, Nelson va faire l'inverse. Et c'est pas absolument, je veux dire, c'est pas un coup de génie nécessairement, ni quelque chose de tout à fait original, parce que ça s'est déjà fait et ça va se refaire dans d'autres batailles. Mais il va approcher la flotte française, la flotte franco-espagnole, pardon, à 45 degrés. Donc, il s'en va. Le but, c'est sa flotte est divisée en deux groupes, si vous voulez. Un qui est commandé personnellement par Nelson, puis l'autre qui est commandé par l'amiral Cunningham. Et il va enfoncer
la ligne française.
Le flanc, ouais, enfoncer la ligne française en carrément en l'éperonnant, là, si vous voulez. Et ça va dégénérer dans une série d'affrontements d'un navire contre navire qui va durer 4 ou 5 heures. Mais le résultat, c'est que les Franco-Espagnols étaient déjà désorganisés un petit peu avant la bataille, mais là, ils sont complètement perdus. L'avant-garde de la flotte franco-espagnole continue son chemin pendant que le centre et l'arrière-garde se font massacrer. Et les Britanniques ont l'avantage dans des combats comme ça. Les Britanniques sont beaucoup plus combatifs, et je parle en général, que leurs adversaires, ici les Français et les Espagnols, si bien que ça va être en bout de ligne un massacre. Donc, vous avez, en termes de navires, les Franco-Espagnols ont 33 navires au début de l'engagement. 33 gros navires, combien on vient de voir, là, des navires de 70 puis 80 ou 5 canons. Oui. 26 000 marins en tout et partout. Ça vous donne une idée aussi de la taille des bateaux. Ils vont, à la fin de la journée, à 5 heures le soir, quand la bataille cesse, ils ont perdu 21 de leurs navires, 4 ont été coulés, puis la balance a été capturée. Et ils vont avoir perdu la moitié de leurs troupes. Donc, en fait, en termes de pourcentage de perte de navires,
j'ai les stats exacts, Stéphane. Voulez-vous que
oui, vas-y. Vous allez voir l'ampleur de la défaite.
Ça n'a aucun bon sens. Pour les Franco-Espagnols, on parle de 4400 morts et de 2500 blessés. OK, là, c'est juste les morts, là, c'est beaucoup, là, c'est une bataille navale. 4400 morts, 2500 blessés. Du côté des Britanniques, 448 morts, 1200 blessés et 18 captures de navires, dont le vaisseau amiral français.
Et hey, tu dois ajouter aux 8000 blessés et tués français ou espagnols, un autre 8000 qui sont capturés.
OK, en plus. Fait que...
c'est la moitié des soldats, des marins qui ont participé à la bataille du côté français ou espagnol qui vont être tués, blessés ou capturés.
Okay.
Ce qui est énorme. Une perte de 50%, c'est énorme. Puis en termes de perte de navires, c'est 65%.
Ben oui, puis c'est 10... Hey, les Britanniques ont 10 fois moins de morts que les Franco-Espagnols. Là. 4400 pour les Franco-Espagnols, puis 448, là, c'est 1 sur 10.
Et aucun navire. Ils ne perdent aucun navire au cours de cette bataille. Ils sont très endommagés. Là,
ouais,
le Victory de Nelson doit être remorqué par un autre navire parce qu'il a perdu tous ses mâts au cours de la bataille. Nelson lui-même est blessé mortellement. Il va mourir donc 3 heures après le début de la bataille dans la cale du Victory. Donc, il ne verra pas la victoire finale, mais il a déjà une bonne idée là, au moment où il meurt qu'ils sont en train de tailler en pièces leur adversaire.
Du côté de Napoléon, tantôt tu l'as dit, là, quand il va apprendre ça, il va envoyer quelqu'un pour remplacer Villeneuve, va se concentrer sur Austerlitz. Est-ce que ça va être fini, les batailles navales, par après? Est-ce qu'on va se concentrer plus du côté continental, là, du côté français?
Absolument. C'est-à-dire, ça va briser les reins de la marine française. Il reste d'autres flottes, il reste d'autres navires qui n'ont pas été engagés. Mais ça casse toute tentative pour les Français de mener des opérations navales à grande échelle. Un peu de la même manière où la bataille du Jutland au cours de la Première Guerre mondiale va avoir cet effet-là sur les Allemands. À partir de la bataille du Jutland, les Allemands se replient dans leur port. Ben, les Français ne sortiront à toute fin pratique plus de leur part après la bataille de Trafalgar. Et on peut dire, à partir de Trafalgar, les Britanniques ont plus de rivaux sur mer. Il faut attendre un siècle, c'est-à-dire autour de 1905, pour que l'Allemagne se pose un nouveau rival de l'Angleterre, la Russie dans une certaine mesure aussi. Mais il n'y a plus d'adversaires. Vraiment, les Britanniques
sont seuls,
ils ont la maîtrise des mers pour un siècle. Et Napoléon, lui,
incroyable,
va mener la guerre essentiellement sur terre. Ça va être, on va parler de la campagne d'Austerlitz de 1805. Il y a toute une série de coalitions qui se forment ensuite contre la France. Et Napoléon va être comme pris à mener ces guerres-là, que parfois lui-même a déclenchées, jusqu'à sa chute finale à Waterloo 10 ans plus tard.
Très intéressant. Joe, t'as ton micro coupé, tout va bien?
Mais j'ose comme pas intervenir. J'ai peur, que, j'ai peur qu'on scrappe l'élan de Stéphane, mais j'aime bien l'image que tu viens de mettre. C'est une belle façon de continuer.
Mais justement, ben Stéphane, je ne veux pas te couper,
le temps file.
Le temps file. Mais je pense qu'on va continuer dans un autre épisode parce que je veux aussi parler de la bataille d'Austerlitz. On n'en a pas. On n'y a pas pensé. Parce que de ce temps-ci.
Moi, on pourrait faire Austerlitz puis Waterloo. Ça pourrait être les deux prochains sur Napoléon.
Ah oui, puis on peut faire d'autres recherches sur la campagne d'Égypte qui me fascine au plus haut point aussi.
Mais juste pour vous donner un teaser, peut-être sur Austerlitz, vous avez vraiment Napoléon qui se retrouve dans une situation où ses adversaires le regardent et ils disent « il ne peut plus s'en sortir ». C'est fini, c'est, là. Il est coincé. Ils sont inférieurs en nombre, ils sont dans une mauvaise position, ils sont crevés parce que ça fait 3 mois que Napoléon fait marcher, ben plus que ça en fait, il quitte au mois d'août, on est rendu au début décembre, 3 mois que les soldats de Napoléon marchent tous les jours. Et des distances absolument phénoménales. Donc, on se dit, là, OK, là, il a mis la tête en dessous du marteau, là, puis on va l'achever à Austerlitz.
Est-ce que c'est la bataille d'Austerlitz qui va faire préalablement traverser son armée à travers les Alpes?
Non, là, ça, tu parles des campagnes d'Italie.
Ah, les
campagnes d'Italie sont avant Austerlitz. Ça, c'est Napoléon n'est pas encore empereur au moment de la campagne d'Italie de 1800. Donc, c'est 5 ans plus tôt que ça s'est produit, ça. Je, parce qu'il y a 2 campagnes d'Italie, là, je ne me souviens plus, c'est dans laquelle Napoléon va traverser les Alpes avec son armée. Exactement. Mais Austerlitz, c'est aussi considéré. En fait, c'est traité dans l'histoire militaire. Je doute que ce soit exact. Mais la manière dont on raconte ça, c'est comme si Napoléon avait tout calculé. Il a, littéralement, comme s'il avait pris une horloge, il avait remonté.
Pour aller voir,
ensuite. Ouais. Il laisse les choses se dérouler, puis lui, comme commandant en chef, n'a même pas à intervenir parce que tout se déroule exactement comme il l'avait prévu. En réalité, ça, c'est une reconstruction après la bataille pour faire passer Napoléon comme étant encore plus grand. Mais quand même, la manœuvre, elle est très intéressante. On va voir comment il parvient à briser. En fait, si vous voulez déjà avoir une idée, Napoléon va faire à Austerlitz ce que Nelson a fait à Trafalgar, c'est-à-dire qu'il va croiser le T de son adversaire, il va briser son centre et il va écraser son aile droite. Ce qui va se terminer par l'épisode des canons qu'on a évoqué un peu plus haut, les canons qui cassent la glace sur les étangs.
Je vous jure que cet épisode-là sur Austerlitz, ça prendra pas 5 mois avant qu'il sorte.
Ben, quand on va voir le film, puis on pourra se donner une idée du caractère réaliste de ce film-là, ben on pourra commenter Austerlitz.
On peut se donner rendez-vous, mettons, après l'avoir vu pour Austerlitz. On peut continuer la série sur Napoléon cet hiver, justement, après avoir vu le film. Puis justement, messieurs, ben là, Stéphane, c'est plat parce que t'es loin de nous autres, hein? Mais on va amener une photo de toi, puis on va le coller sur le siège entre moi et Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre. Joe, c'est un...
N'oublie pas de donner du popcorn à ma photo.
La fin va être toute grasse et pleine de sel. Mais Joe, je t'invite à une date, une deuxième date, mon cher Joe. Napoléon, ça te tente-tu?
C'est sûr que oui.
Oh, que ça serait le fun. Et puis, ça serait le fun, peut-être, je sais pas, des gens de Rouen, on s'entend qu'on va aller à Rouen l'écouter. Si on a des auditeurs, des auditrices de Rouen, là, c'est pas une gang, aller voir Napoléon, là, des auditeurs,
ouais, auditrices épique,
de Sur la Terre des Hommes, regarde, on remplit la salle, là, ça serait le but, là. Ça serait vraiment le fun. Si vous entendez cet épisode-là, c'est une vraie invitation, mais on va essayer de trouver la date exacte où est-ce qu'on va aller le voir, ce film.
Un meet Napoléon. And greet.
Ouais, non, ça serait vraiment cool. Guillaume Beaulieu qui dit « Venez dans le coin de Montréal et on ira en grosse gang.
» Ah ouais?
Hey, ça serait épique quand même. On monte, moi et Joe de la BTB, puis on s'en va voir dans le fond, dans le grand centre, là, à Montréal. Ça serait... Tu le ferais-tu, toi, Joe?
Non.
T'es-tu game, non? T'es pas game?
Moi, je pense pas. Okay. Pas pour aller voir Napoléon.
Okay. Ben, on pourrait faire autre chose. Ça. Moi, j'irais vous rejoindre à Montréal. Moi, je quitterais ma campagne de Valcourt pour aller vous rejoindre à Montréal.
Ça serait le fun. Ça serait le fun. Mais Joe, il est pas game.
Ouais.
Oh, il est découragé. Ah, ouais. Bon.
Ah, c'est parce que j'ai ton cousin qui me coûte cher présentement.
Ah, il est en train de te plumer, ce cher S, avec un S Rivard de Rouyn-Noranda. Eh bien, je le salue justement. Mais avant, je veux vous saluer, Jonathan Saint-Pierre. Merci de ta participation active ce soir.
Ouais, hein, ça a été mon gros épisode. En même temps, j'ai pas coupé Stéphane tout le long de l'épisode comme d'habitude.
Non, ça a été moi. Mais moi, je suis bon là-dedans à couper aussi.
Ça me manquait que tu me coupes.
Ouais. mon cher professeur Roussel, encore merci pour ce délicieux cours.
À chaque fois, je le dis, j'adore ça, faire ça. Là, empêchez-moi pas, là. J'adore. Ouais. Ça fait depuis qu'on a parlé là, qu'on faisait ça, depuis 48 heures que je me vautre dans les
navires
britanniques.
Ouais, exact.
C'est une passion que tu transmets vraiment bien, Stéphane. C'est toujours le fun de t'entendre.
J'aurais bien aimé t'avoir comme prof, mon cher prof.
Pas trop tard.
Non, pas...
je suis pas à la retraite encore.
Oui, exact. Des cours en ligne sont toujours offerts par Stéphane. Mm. Alors, voilà. Alors, merci, messieurs. Merci aux membres Patreon d'avoir été là ce soir encore une fois. C'est vraiment le fun d'enregistrer avec vous. Bientôt, si l'occasion le permet, on pourra faire un live avec tout le monde. Mais l'actualité, comme vous le savez, n'est pas de notre côté. On ne s'embarque pas dans le conflit Israël-Hamas. Alors, avant qu'on soit en ligne, live, dans le fond, devant tout le monde pour parler d'actualité, quelque chose qui rejoint tout le monde en même temps, qui est plus temporel, si je peux dire. Ça dépend. On pourrait bien parler du budget de l'an 1 de Paul Saint-Pierre Plamondon, mais ça ne me le dit pas à soir. Puis Joe, il fait ça non plus.
Ni demain, ni jamais.
En regard à ce qui a trait au conflit israélo-palestinien, je vous dis, messieurs, on pourrait parler du passé peut-être de ça. Mais commenter aujourd'hui, c'est absolument impossible, de commenter sereinement et sur des informations fiables ce qui se passe là-bas. C'est pour ça que j'aime mieux l'histoire que l'actualité, moi, personnellement, parce que ça bouge un peu moins. Ça bouge, l'histoire.
Est-ce qu'on pourrait faire un épisode sur les origines du conflit, que ça serait moins polarisant? Mais en même temps,
ça serait pareil.
Ça me le dit pas de recevoir des menaces de mort, c'est juste ça.
Mais bon, il y a tellement de sujets, on peut passer à d'autres choses.
Oui, on en parlera.
D'accord, on va rester à Austerlitz.
On en parlera en 2033, quand ça va faire 10 ans, mais en même temps, ce conflit-là est malheureusement éternel. Alors, merci à tous. Merci, messieurs. Merci les membres Patreon d'avoir été là. Je vous invite, pour ceux qui ne sont pas abonnés encore à la version podcast, eh bien, on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts pour encore un mois, deux mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre avant que ça ferme. Alors, vous pouvez désormais vous désabonner de Google Podcasts et venez nous rejoindre sur Spotify. Parce que ça va finir par fermer. Et puis aussi la chaîne YouTube de Sur la Terre des Hommes qui reprend vie tout doucement, tel un phénix tout doucement, mais je ne pense pas qu'on va se rendre au niveau qu'on était avant. À vous de me prouver le contraire, voilà. Merci à nos membres Patreon de nous soutenir à tous les mois, les curieux, les stagiaires, les historiens, les érudits, orateurs, construction avec un S Rivard de Rouyn-Noranda qui est en train d'amener, c'est bizarre à dire, mais Joe dans la rue. Et puis...
Non, c'est le contraire. Il est en train de faire un... Il va me faire de quoi de solide, mais c'est pas...
Ouais,
mais
t'auras plus de scène.
Ça commence incessamment. C'est pour ça que je peux pas rien planifier, parce que ça se pourrait que les marteaux commencent demain.
Oh, voilà. Et puis aussi, miel Abitémis, la seule chose que Joe va pouvoir s'acheter désormais pour se nourrir, parce que tout va passer dans ses paiements de rénovation.
si je peux me permettre aussi, je vais saluer tous nos patrons qui est Patreon qui sont avec nous ce soir, mais aussi peut-être saluer ceux de l'avenir qui vont nous entendre sur le balado.
On vous salue.
Et dimanche prochain, on va probablement, enfin j'imagine comme d'habitude, avoir droit à passer sur tout ce qui TV sur Twitch.
Oui.
Donc dimanche juste avant l'heure du Seigneur, le jour du Seigneur.
Le jour du
Seigneur avec un E.
Oui. Et puis je suis tombé, Stéphane, je voulais vraiment, je ne savais pas que tu étais un marathonien de la sorte. Je t'ai vu sur Twitch à un Mercronspi, OK?
Ouais.
Ça dure quoi, 7-8 heures, ça? Tu es en ligne pendant 7-8 heures de temps. Comment tu fais?
Je suis Tommy, c'est Tommy, c'est l'animateur de cette.
Hey, mais 8 heures cette là, à regarder de ce stock-là sans saigner.
Mais
quoi des
que, il y a deux types d'émissions. Donc, le mercredi soir, c'est sur Twitch, c'est cette émission de Tommy Godette, donc qui s'appelle le Mercronspi, où on regarde effectivement des vidéos produites à la tonne par la complosphère québécoise internationale. Ah. Et le jeudi, c'est l'addendum au Mercronspi. Généralement, il y a quelqu'un qu'on met en charge d'un dossier en particulier qui va couvrir un sujet. Par exemple, Max Laprise couvre beaucoup les sujets qui... Puis il se trouve leur origine dans l'histoire du Moyen-Âge, parce que lui, c'est un spécialiste de ça. Pierre Ionic, qui est un avocat qui couvre les sujets de droit. Et moi, devinez quoi, qu'est-ce que je couvre surtout avec Jason Kays?
La politique canadienne.
Les affaires militaires, surtout. Beaucoup, beaucoup donc de dossiers sur... la guerre en Ukraine par Jason Kays. Et moi, par exemple, un exemple de ce que je fais, je vais aller présenter, je pense, en novembre, un dossier sur la Wehrmacht aux mains propres ou le mythe de la Wehrmacht aux mains propres.
Fait que toi, mettons, un épisode de Sur la Terre des Hommes de 8 heures, t'aurais pas peur de ça?
Non. T'as vu, là, vous êtes obligé de me faire situer pour qu'on fasse les guerres napoléoniennes où on aurait pu faire Trafalgar puis la stratégie navale pendant...
Ouais. On a déjà fait des épisodes de 3 heures, mais c'est des soirées électorales. T'étais pas là encore, hein, Stéphane, quand on a fait la soirée électorale présidentielle de 2020. T'étais-tu avec nous autres dans ce temps-là,
je pense pas? Non, j'ai fait la soirée électorale du Québec.
Hey, 3 heures, il faudrait aller voir, mais c'est autour de 3 heures, 3 heures et demie. On était avec Martin puis Frank du Crachoir. Ça a été une superbe soirée, mais ça finit tard.
C'était pas fini en plus.
Non, mais non, parce qu'on a eu les résultats plusieurs jours
plus tard. On a fini avant que ça finisse.
Exact.
Ouais, c'est ça.
T'as mis un commentaire d'Yves Nadeau qui dit aussi.
Yves Nadeau disait que le podcast est aussi disponible sur Balado Québec. Ce qui
exactement.
Est aussi la meilleure place pour aller les chercher.
Je m'excuse, ouais. Yves, je vais le rajouter, mais oui, disponible sur Balado Québec. Balado Québec qui a fait, on va le dire, Yves, vous avez fait naître l'idée de faire du podcast pour n'importe qui. Quelqu'un qui a un ordinateur, un micro. Puis un fil est capable maintenant de faire un podcast. Et ça, c'est en grande partie grâce à Balado Québec qui offre un service d'hébergement de podcast complètement gratuit. Alors, il faut en parler de Balado Québec. Yves, je vais ajouter ça à ma liste après l'épisode. Balado Québec, merci beaucoup de ce que vous faites pour le podcast québécois. C'est très apprécié. Vraiment beaucoup. Comme Stéphane a dit, on est disponible sur Twitch à partir de 18h. Dans le fond, c'est Twitch Touski TV. Alors, tapez Touski TV sur Twitch et puis à partir de 18h, on est là. Après ça, il y a le Jour du Seigneur, bien sûr, avec Frank Pocket. Et puis, ensuite, le crachoir, le célébrissime crachoir. Et puis, après ça, c'est quoi? C'est l'after show du crachoir. Ou est-ce que c'est... des fois, c'est... c'est complètement débile. Là. Je regarde ça, puis il y a des stickers qui apparaissent partout. Les gars sont plus capables de parler parce que tout le monde envoie des stickers. C'est vraiment une belle communauté. Celle du crachoir, c'est une belle communauté. Je l'aime beaucoup.
Celle de Tommy Godette aussi, qui est très proche, ouais. Qui se recoupe beaucoup. Là,
avec
Douteux. Celle de Douteux
TV.
C'est
comme si c'était des cousins.
Ouais,
exactement. Communauté cousine.
Ben, tu sais, on n'est pas ensemble. On a déjà été avec podcast.com, avec le crachoir, mais ça reste des très bons amis. Comme tu l'as dit, Stéphane, tu vas avec Douteux, tu vas avec Tommy Godette faire le Mercronspi, etc. On est quand même encore reliés un peu. Tu sais, Martin, c'est lui qui m'a approché pour diffuser les épisodes de Sur la Terre des Hommes le dimanche. Je l'ai pas pris à genoux. Il m'a approché avec ça. C'est vraiment gentil. Fait qu'il y a une très belle collaboration entre les deux entités, même les trois entités, devrais-je dire. Alors, merci encore à tous et à toutes. N'oubliez pas que Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Dernier Mot. Si vous voulez vous procurer, c'est-à-dire notre premier livre, Scripta. Joe, t'as-tu commencé à écrire le deuxième tome ou...
Pas tout.
Moi non plus. Alors, voilà. Peut-être qu'il y en aura juste un, finalement. Alors, voilà. Ouais, Stéphane, lui...
Moi, j'ai commencé.
T'as commencé, ta partie? Oui, parce que s'il y a un deuxième tome, Stéphane ne fera pas juste la préface. Cette fois-ci, il va y écrire un... quelques chapitres, je crois, n'est-ce pas, professeur?
Oui, je pourrais.
Ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment cool. Au pire, de prendre quelques textes de tes livres puis les mettre dedans. Non, c'est pas vrai.
Ben, j'ai envoyé mes notes de ce soir.
Oui, voilà. Ben oui, ben, pourquoi pas? Alors, merci les gars. On dirait que je veux pas que ça finisse, mais je vais terminer comme ça. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
Salut tout le monde.
Salut à tous et à toutes.